L'épreuve du temps, l'homme face au changement climatique, c'est ce que raconte le professeur Yves Coppens tous les jours de 9h à 18h au musée d'anthropologie historique de Monaco. Non, Yves Coppens n'est pas devenu guide de musée, mais il a accepté de guider les visiteurs à travers les salles d'exposition grâce au truchement d'écrans vidéo. Après 6 mois de fermeture, le musée d'anthropologie de Monaco réouvre ses portes et propose de remonter le temps pour comprendre pourquoi et comment les hommes se sont adaptés au changement climatique dans la région. En quoi ces expositions qui témoignent des différents changements climatiques qu'il y a eu depuis des millénaires peuvent nous éclairer sur le changement climatique que nous vivons actuellement ?
Oui, forcément, parce que, vous savez, on a comme expérience que ce qui s'est passé, bien sûr, auparavant, et c'est un petit peu comme si on regardait dans un rétroviseur, quoi. On est à une certaine époque, on va vers un certain avenir, et pour savoir ce qui s'est passé avant, on regarde dans le rétroviseur. Et les Africains disent ça très, très joliment. Ils disent, quand tu ne sais plus où tu vas, alors je ne dis pas que c'est le cas de la situation actuelle, hein. Les gens sont un petit peu désemparés, mais moi je ne le suis pas du tout. Enfin, les Africains disent, quand tu ne sais plus où tu vas, arrête-toi, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Donc c'est la justification même par excellence de notre travail et de notre compréhension du passé pour avoir une petite idée sur ce qui nous attend. Donc en ce sens, je crois que cette exposition donne une idée de ce grand dernier changement climatique, celui qui est arrivé il y a 10 000 ans. Il y en a eu d'autres, beaucoup plus légers, plus récents, mais celui-là est quand même un grand changement climatique. Et un grand changement climatique qui, comme je le disais tout à l'heure, a entraîné un grand changement dans les comportements. Au lieu de courir après le gibier ou de cueillir des graminées sauvages, ces graminées, on se met à les cultiver et les animaux, on se met à les élever. C'est formidable, hein, et c'est confortable, donc dans sa petite maison. Donc c'est un autre comportement, un autre confort, un progrès incontestable et un peu la société de production qui a évolué encore beaucoup depuis, bien sûr, depuis 10 000 ans, mais dans laquelle on s'est installé il y a une petite dizaine de milliers d'années au moment où il faisait moins froid.
Et l'homme devra s'adapter à ce nouveau changement climatique ?
Absolument. Alors le nouveau changement climatique, je ne crois pas qu'il affecte pour le moment beaucoup l'humanité, sauf la nécessité pour certaines populations de bouger parce que la mer monte. Et si la mer continue à monter, ce que je pense, même si on limite les gaz à effet de serre, la mer monte et la mer va continuer à monter, doucement mais sûrement, et donc il y a une inertie. On ne peut pas traverser comme ça d'un coup et puis tout arrêter d'un coup. Donc il y a des chances que ça continue. Et ce qui sera embêtant pour l'humanité, c'est la nécessité de faire bouger les populations qui sont trop près de l'eau et les faire forcément migrer pour s'installer ailleurs. Et ça, ce n'est pas rien. On parle déjà de réfugiés climatiques, c'est un petit peu ça. Et ça entraîne le mouvement de population, l'installation de population ailleurs. Donc forcément des conflits de territoire et des conflits sociaux qu'on ne pourra pas éviter, qu'il faut envisager dès maintenant. D'autre part, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est le fait de l'anthropisation de la Terre. Alors je m'explique, la Terre a des régions naturelles, elle en a eu beaucoup, elle en a de moins en moins. Et elle en aura dans l'avenir de moins en moins. Et ça n'a pas d'importance, je trouve ça bien. C'est bien que l'homme se prenne son propre territoire, prenne la terre pour la sienne et s'en préoccupe et du coup la transforme. Mais comme on aime bien certains paysages, on aime bien certaines régions, on aime bien certains écosystèmes, pour les conserver, il faut les limiter. Et il faut les encadrer, donc il faut faire des parcs. Alors là, l'UNESCO s'en occupe un peu, il y a un certain nombre d'États qui s'en occupent aussi un petit peu et qui font des parcs nationaux ou des parcs plus régionaux, mais peu importe. Et ça, il faut le faire tout de suite, pour laisser l'homme libre quand même de continuer à conquérir sa propre terre et de mettre des limites pour garder pour lui ou pour ses enfants les régions qu'il trouve belles, lesquelles régions de toute façon évolueront, se transformeront, deviendront autre chose. Mais ça, faut pas le lui dire tout de suite, il serait déçu.
La beauté, c'est une chose, mais il y a aussi la richesse de la biodiversité avec toutes les applications pharmaceutiques qu'on pourrait, si on l'exploitait, qu'on pourrait appliquer.
Absolument, absolument. Mais la biodiversité, elle est intéressante en elle-même, dans sa richesse, comme vous le dites, et elle est intéressante dans son inspiration. C'est-à-dire que l'on peut, en effet, trouver des informations très précieuses, et ce serait dommage de s'en priver, dans la diversité qui existe aujourd'hui. Par exemple, la maman manchot s'en va chercher de la nourriture très très loin et elle la rapporte à ses petits après des centaines de kilomètres parcourus, quelquefois des milliers, des semaines et des semaines parcourues, peut-être quelquefois des mois. Et il se trouve que le poisson qu'elle a emmagasiné pour les petits sont toujours là et ils ne sont pas altérés. Alors évidemment, ça a intrigué l'homme, hein. L'homme est curieux et bien sûr... Il est opportuniste, donc ça l'a intéressé pour son propre profit. Et il a raison, hein, c'est normal. Et donc, il a découvert que c'était une protéine, une peptide plus exactement, qui était à l'origine de cette conservation exceptionnelle. On cherche maintenant à la synthétiser pour s'en servir pour la conservation de nos propres marchandises, quoi. Et pourquoi pas ? Enfin, c'est un exemple parmi mille autres, mais je suis de votre avis, la biodiversité, elle n'est pas qu'un simple mot, elle n'est pas seulement diversité biologique, elle est importante pour l'homme, pour son confort, pour son progrès, pour son avenir, mais il ne faut pas non plus oublier de lui associer la diversité culturelle, la culturodiversité qu'on oublie un petit peu, mais la biodiversité et la culturodiversité, ça fait à la fois la beauté de la terre et la beauté de l'histoire humaine.
Et ce sont souvent les peuples qui protègent, par exemple, les forêts dans lesquelles ils vivent.
Oui, c'est-à-dire que les populations que l'on trouve admirables, à juste raison, mais c'est parce qu'elles sont petites, hein, sont démographiquement petites, ont su bien sûr conserver leur milieu dont ils se servent de manière durable. Mais c'est de manière durable parce qu'elles ne sont pas très développées sur le plan de leur effectif. Ceci étant dit, profitons aussi de leur expérience et de leur pharmacopée et de leur connaissance de leur monde naturel pour s'en servir pour l'humanité tout entière, bien sûr.
Et voici un court extrait de ce que vous pourrez entendre si vous vous rendez au musée d'anthropologie historique de Monaco.
L'Europe a été peuplée depuis très longtemps par un homme fossile qu'on appelle l'Homo erectus. Et cet Homo erectus, ici en Europe, parce qu'elle était isolée par les glaciers, s'est transformé en une espèce particulière, bien connue, qu'on appelle l'homme de Néandertal. Et ce même Homo erectus, ailleurs, s'est transformé en une autre espèce, également bien connue, qu'on appelle l'Homo sapiens, l'homme moderne. Et donc, l'homme moderne n'est venu en Europe, où séjournait l'homme de Néandertal, qu'il y a une quarantaine de milliers d'années. Et petit à petit, d'ailleurs, a prévalu sur cet homme de Néandertal qui a disparu. Un certain nombre de grottes de cette région, et tout particulièrement celle-ci, la grotte de l'Observatoire à Monaco, mais aussi au Balzirossi, l'abri Mocchi, ont montré un contenu tel que l'on voit très très bien les cultures qui sont celles exclusives de l'homme de Néandertal, puis celles qui correspondent à la cohabitation Néandertal-Sapiens, et enfin les cultures qui sont tout à fait typiques de l'Homo sapiens, puisque cette partie de l'Europe a connu cette succession d'hommes fossiles et en même temps de civilisations.
Merci Yves Copin, c'est rendez-vous au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Plus d'infos, www.map-mc.com.